en dire et des nouvelles.
Jean-François Cadet, Pauline Le Duc,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Si l'on excepte Jean-Jacques Goldman, qui ne chante plus depuis 20 ans, il est l'artiste musical préféré des Français dans le top 50 des personnalités du journal du dimanche. Dans sa vie, Marseille, quartier nord, rime avec archipel des Comores. Un temps coach pour l'émission The Voice sur TF1, le rappeur, chanteur et compositeur français Soprano s'est envolé avec la colombe, le corbeau et Phénix vers un Everest de popularité, même au-delà puisque le voici chasseur d'étoiles. C'est le titre de son nouvel album et vous m'en direz des nouvelles.
Un peu plus près des là où les rêves n'ont pas de frontières, pour oublier la pesanteur sur terre, un peu plus près des étoiles, pour leur emprunter un peu de lumière, revenir sur terre, la tête pleine d'espoir.
Bonjour Soprano.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et dès l'entame du disque, hein, on l'a entendu, votre vaisseau spatial virtuel nous projette donc dans les années 80 et on se souvient d'ailleurs que sur l'album Phénix, il y avait déjà un titre qui nous parlait de chasse aux étoiles. Est-ce que ça veut dire que cet album était en gestation dès 2018 ?
Oui, en fait, c'est vrai que à chaque fois que je sors un album, j'ai déjà à peu près le titre et presque un peu le concept du prochain. Ça me permet de pouvoir toujours garder un lien et de toujours continuer à travailler et me faire plaisir et à créer des univers déjà en amont. Ça a toujours été comme ça.
C'est-à-dire que quand vous construisez votre parcours musical, vous voulez raconter en fait une histoire d'un bout à l'autre de votre carrière.
C'est ça, parce que je trouve que, en général, dans mon cas, c'est vrai que les chansons collent à une période de ma vie. Et c'est vrai qu'on fait un album, quand on l'enregistre, on l'écrit, l'album sort ou deux fois un an après, six mois après, les gens découvrent après. Et du coup, je suis à la fin de l'album déjà dans un autre état d'esprit par rapport au prochain album. Donc je commence à mettre un peu les graines pour pouvoir amener les gens à toujours continuer à me suivre dans cette longue histoire, cette histoire qui me suit depuis 20 ans maintenant.
Oui, 20 ans, effectivement. Alors justement, les graines ont germé. Comment est-ce qu'elle est née, justement, cette idée comme ça de partir dans l'espace? C'est très à la mode, hein. Ça vous dirait, en vrai?
Ben, en fait, moi, c'est parti par rapport à, en fait, c'est mon concept que de l'Everest, je suis parti Phénix qui s'envolait. Ouais. Je me suis dit, à un moment donné, il va falloir aller dans l'espace. Parce que voilà, on continue à toujours s'élever le plus loin possible, le plus haut possible. Et c'est vrai que c'est passé, je suis parti dans l'espace juste 2 heures avant, après Thomas Pesquet, mais c'est parti de ce délire-là. C'était toujours pour montrer une évolution à travers ma musique et à travers ma carrière.
Mais vous
à la base, c'était parti comme ça.
Et vous les avez atteintes, les étoiles, lorsque l'album est sorti?
Ben, pour l'instant, ça se passe bien. J'en ai chopé quelques-unes avant, quand même. Ça veut dire que le fait de pouvoir partager un peu le public, des morceaux avec le public pendant les festivals, c'était déjà, pour moi, c'était des soirées étoilées. Donc après, quand la sortie de l'album est sortie, avec les retours et tout ce qui se passe autour du disque, on est super contents.
Ma moto tenue camisolée, pour bien penser, on peut
Ça c'est dingue, hein, et c'est Soprano dans VMDN sur RFI. Alors il faut aller voir le clip, hein, qui rappelle un peu d'ailleurs celui de Plus près des étoiles. Il y a un peu la même patte Soprano. D'ailleurs à chaque fois il y a des guest stars qui sont pas tout à fait inconnus, mais qui l'ont été. Hein, vous l'avez compris, je parle de Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Les clins d'œil abondent, hein, d'une chanson sur l'autre. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée comme ça de replonger dans les années 80? Vous avez chopé une sorte de nostalgie aiguë?
Oui, déjà, ça, mais je l'ai toujours eu, j'avoue. Chaque fois que j'entends un morceau des années 80, à chaque fois, je sais pas pourquoi, je le smile. Et le pire, c'est que je vois que tout le monde a le smile dans la salle dès qu'il y a un morceau des années 80, dans un mariage ou dans un anniversaire ou autre part, ou à la radio ou à la télé. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu ma fille regarder Stranger Things, je me suis dit, c'est plutôt mes repères à moi, mes références. Et je me suis dit que si elle, pour elle, ça, c'est ses références et c'est les mêmes que les miennes, je me suis dit que c'était marrant de pouvoir faire un album avec plein de petits clins d'œil années 80, justement, pour pouvoir faire le pont entre les générations dans un foyer. C'est peut-être rigolo.
Oui, c'est étonnant que vous parliez de votre fille qui, effectivement, n'était pas née dans les années 80, parce que finalement, même la jeune génération est pétrie de toutes ces références.
Mais oui, tout à l'heure, je regardais à la télé, il y avait une pub, je sais pas c'était pourquoi, il y avait des jeunes qui étaient là, ils étaient habillés totalement années 80, il y avait, comment ça s'appelle, toutes les typographies de la pub étaient années 80, la musique derrière, c'était style années 80 avec les synthés devant et la rythmique droite. Je pense que les années 80 aujourd'hui, c'est peut-être une étiquette de dire années 80, mais je crois qu'aujourd'hui, le son des années 80, c'est le son d'aujourd'hui. C'est quand j'écoute l'album de The Weeknd, j'ai l'impression qu'on est en train d'écouter un album dans les fins 80-90 avec les gros synthés de l'époque.
Mais le son de cet album, c'est un son années 80 ou c'est un son 2021?
C'est un son 2021 avec des références années 80.
Alors comment vous avez travaillé la musique avec tous les gens qui ont travaillé avec vous, qui font partie, on va dire, de votre entourage traditionnel, hein? Ça fait pas mal d'années que vous travaillez avec eux depuis
oui,
le début,
souvent. Avec ma famille, ouais. Voilà. C'est ça, je travaille avec mes amis et ma famille depuis toujours, depuis le premier jour que j'ai commencé. Et c'est vrai que pour travailler cet album, il y en a certains qui ne sont même pas nés dans les années 80, qui sont nés fin 90. Surtout celui avec qui on a composé la moitié de l'album. Et du coup, le travail qu'on a fait, c'était pendant un an, dans notre vaisseau virtuel, on a décoré le studio où on était en mode années 80. Il y avait des posters de Magnum, on regardait Goldorak dans un coin. De l'autre côté, il y avait que des hits des années 80 qui tournaient en boucle, les Michael Jackson, Toto, Madonna, Jean-Jacques Goldman, Balavoine, qui tournaient en boucle à la télé. On était habillés, bon, c'est la mode d'aujourd'hui, donc on n'a pas beaucoup changé, mais en mode années 80, c'est vrai qu'on s'est mis dans une ambiance et une atmosphère pour pouvoir faire cet album, et à chaque fois, chaque morceau, de trouver un clin d'œil à un film ou à un acteur ou à une musique des années 80.
Alors, il y a plus qu'un seul clin d'œil, parce qu'à l'intérieur même des titres, parfois, il y en a plusieurs. Hein.
C'est ça.
Vous avez dû beaucoup vous amuser, en fait, à chaque fois, en écrivant les titres.
Ah oui, j'étais comme un enfant. Je suis retombé dans l'enfance, et à chaque fois, par exemple, quand je fais un morceau qui s'appelle Le Grand Bleu, je fais un clin d'œil au film, et en même temps, j'appelle MC Solar qui est arrivé fin 80, début 90, et en plus sur une musique qui aurait pu être dans les premiers albums de MC Solar. Il y a des morceaux qui s'appellent La Boom par rapport au film aussi. Il y a des morceaux où on a fait carrément un slow, parce que dans les années 80, le slow était à la mode.
Plus du tout aujourd'hui, hein, pour le coup.
Ah, pas encore, mais peut-être que je vais la ramener. Je vais essayer, je vais travailler pour qu'on puisse se remettre au slow. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'est beaucoup cassé la tête pour essayer de faire plein de petits clins d'œil pour que les gens puissent s'amuser et rentrer dans cet univers, dans l'album, cet univers un peu Star Wars, Star Trek.
Oui, Scarface aussi, hein, parce que.
Et Scarface aussi. Voilà.
Mais vous-même, Soprano, quelles sont les idoles des années 80 qui ont énormément compté dans votre parcours personnel et artistique?
Michael Jackson, parce que si à 5 ans, je me rappelle des premières fois où il y avait Thriller, ça veut dire que ce monsieur m'a beaucoup choqué. Michael Jackson, Daniel Balavoine, je lui ai dédicacé un morceau dans mon album exprès, justement. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vision artistique et même d'homme. Et après, il y a des Jean-Jacques Goldman, il y a des Michel Berger, France Gall, un peu plus anglo-saxon, il y a Toto, que j'aime beaucoup. Toto, j'adore Toto, Phil Collins, Elton John. Voilà, c'est un peu les artistes que j'écoutais, que j'aime beaucoup des années 80.
Un pasteur a fait un rêve il y a tellement d'années. Malgré Obama, tes enfants sont toujours visés. Au pays des droits de l'homme, de l'égalité. Encore un jeune noir au sol, au journal télévisé. Je suis fatigué, je suis fatigué. Les fantômes du passé continuent de te hanter. Mon amour, Africa, mon amour, je te vois pleurer. Tes enfants du monde entier, Africa, mon amour. Africa, mon amour, j'ai le cœur blessé, car rien n'a vraiment changé.
J'ai le cœur blessé car rien n'a vraiment changé. La chanson s'appelle Racine Soprano et c'est sans doute la chanson la moins optimiste, la moins positive de l'album, alors que vous avez plutôt l'image d'un chanteur qui a du peps, qui veut y croire, qui a montré qu'on pouvait y arriver. On a un peu l'impression, en écoutant cette chanson, que dans le combat contre le racisme, l'optimisme ne serait plus de mise.
L'optimisme est toujours là, mais c'est vrai que quand j'ai écrit cette chanson, c'était la même période où il y avait toutes ces bavures policières aux États-Unis avec George Floyd et tout ce qu'on a vécu, qu'on a vu aux infos pendant presque un an l'année dernière. Ça m'a vraiment marqué. Et comme on était en plein confinement, je regardais mes enfants et je me disais, à l'heure actuelle, je pourrais jamais promettre à mes enfants qu'ils ne seront jamais victimes de racisme alors que nous sommes en 2021. Et ça m'a un peu peiné un peu. Et c'est vrai que je me suis dit, je vais imaginer comment je vais faire ce morceau. On va imaginer que je suis dans un village en Afrique. Il y a les anciens qui portent la guitare et qui commencent un peu à raconter l'histoire et qui commencent un peu à raconter un peu la douleur un peu du passé. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson, parce que justement, je me suis dit, est-ce que vraiment ça a changé quand on voit tout ce qui se passe? Bien sûr, je suis quelqu'un de positif, je ne généralise pas, mais c'était une chanson qui a été écrite pendant une période qui était vraiment, vraiment axée que sur ça.
Et la cosmopolitanie, pour reprendre le titre d'une de vos chansons, c'est une étoile qui vous semble atteignable aujourd'hui en France et ailleurs?
Bien sûr qu'elle est atteinte, elle est atteinte. Moi, je dis toujours, quand on descend à Marseille, on voit que ça. Quand je vois mes enfants, ils sont en plein dedans. Hein. Leur mère est italienne, espagnole. Moi, je suis comorien. Ils sont marseillais en même temps. Ils ont tout dedans. Et je trouve que la cosmopolitanie est beaucoup plus présente dans certains pays que le racisme. Il sera toujours. Je pense qu'il y a du racisme partout. Faut pas toujours généraliser, hein, ou en disant que c'est qu'une catégorie de personnes qui vit le racisme. Le racisme existe partout, dans tout. Mais quand même, le métissage et la cosmopolitanie, ou le vivre ensemble, est beaucoup plus présente. C'est juste que c'est quelque chose qu'on vit avec silence. Et le problème, c'est que le racisme, ça fait beaucoup plus de bruit, donc on a l'impression que ça prend beaucoup de place. Mais les gens qui arrivent à vivre ensemble, il y en a beaucoup. Il faut le dire, il faut le préciser.
Alors vous, vos racines, elles sont aux Comores, hein, vous le disiez, cet archipel de l'océan Indien pour lequel d'ailleurs vous menez des actions de terrain avec votre fondation. Les Comores qui vont pour la première fois de l'histoire participer à la CAN, hein, la Coupe d'Afrique des Nations, rendez-vous le 9 janvier prochain sur RFI. Alors les Sélakantes sont quand même tombés dans un sacré groupe, hein, le Gabon, le Maroc, le Ghana, ça va pas être évident. Hein.
Ça va pas être évident, ça va être un peu... j'avoue que quand on a vu le tirage au sort, on s'est dit, il va falloir tout donner. Mais comme on disait, un collègue à moi, il m'a dit, le fait d'être à la CAN cette année, déjà c'est une victoire, c'est magnifique. Après, bien sûr, on espère que l'équipe va tout donner pour aller le plus loin possible, même peut-être aller dans le dernier carré, bien sûr, on y croit. Mais c'est déjà extraordinaire pour ces quatre petites îles qui, depuis des années, se battent pour pouvoir intégrer la CAN. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est une fierté, c'est un truc de malade.
Bon, je sais pas si vous irez au Cameroun applaudir les Comoriens. Ce que je sais, c'est qu'en 2022, vous allez faire la tournée des stades, hein, en France, qui se terminera au Stade de France le 2 juillet, avec auparavant le 11 juin au Groupama Studio de Lyon, le 25 juin au Matmut Atlantique de Bordeaux, et évidemment le 18 juin à Marseille, au Stade Vélodrome.
Marseille est la place, on met le feu, on met le feu, on met le feu.
On dit peu ne qui dit mieux. Tu veux ma sarcène, me fais la queue. Extraterrestre comme Migue. Si tu me touches, frère, fais un vœu. Que des herbivores sort le feu. Le sang ici est blanc et bleu. On craint des guns ou à part Dieu. Ici ça bibi comme les Shelby. Genre le débit, le gros yébi. Marche bébé, ça fait tébé comme au Dibi. Mais des pépites comme la newbie, bébé bébé. Floriberry, Ravanelli. Dans le hazy, dans le gari. Y'a les outils pour te bim bim. Que tes bras longs comme Dazim. Comme Dibiki, bébé bébé.
C'est l'ovni, c'est l'indépendance. Je mets les bras écartés quand je danse. Tu verras nos têtes dans les tendances. Un 3 sur l'étendard, ils se rappelleront de la sentence. J'suis avec les deux S et le A. Ouais, c'est Marseille, bébé, t'inquiète, ma race, ça bouge pas ici. Ça sort le machin gros pour des embrouillades de cas. On est à 4 sur le T-Max, quoi. On
dégage. Soprano avec Jules, SCH et Alonso pour ce featuring intitulé Planète Mars 2021, avec évidemment un clin d'œil plus qu'appuyé au groupe IAM. Soprano, sur l'album, vous en parliez tout à l'heure, il y a aussi un duo avec MC Solar sur le Grand Bleu. Vous revendiquez une forme d'héritage de ces rappeurs qui ont d'ailleurs plutôt explosé dans les années 90 que dans les années 80.
Oui, mais après ils ont commencé le rap dans les fins des années 80, ils ont commencé, c'est eux qu'ils ont découvert, ils ont cassé les portes pour que le rap soit comme il est aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui je suis là à faire des interviews, à faire des concerts partout. Ça c'est un truc très important pour moi de pouvoir leur rendre à César ce qui appartient à César. Quand MC Solar vient au studio pour enregistrer avec moi, je suis comme un enfant. C'est une légende vivante qui est à côté de moi, qui a bercé mon enfance, qui m'a indirectement appris ce qu'était des rimes, des métaphores, des jeux de mots. Et IAM, c'est pareil. IAM, nous à Marseille, IAM, s'il n'y avait pas IAM, la plupart des artistes marseillais ne seraient pas aussi connus. C'est IAM qui a vraiment cassé la porte et qui a créé cette ambiance et cette ferveur. Donc bien sûr, leur rendre hommage, en plus avec la nouvelle génération, je trouvais que c'était très très important.
Alors il y a des morceaux festifs, il y a des morceaux conscients, il y a des morceaux très rap, il y a des morceaux plus chantés sur cet album de 18 titres. L'objectif c'était d'en donner un peu à tout le monde, de pas s'enfermer dans une catégorie.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, par rapport à mes humeurs, il y a des jours où je n'écoute que des morceaux très très chantés de variété. Il y a des jours où j'écoute que du rap très technique ou très dur ou très dansant. Et il y a des jours où je suis très un peu plus festif, où j'ai envie de faire des concerts et sauter partout. Et c'est vrai que je me dis, un album normalement, si on suit le contexte et le concept que j'ai dans mon album années 80, à la base un album c'était un truc qu'on pouvait consommer pendant un an et demi, deux ans. Parce que justement, il y avait toutes les teintes et les couleurs de notre humeur de tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai voulu donner un peu à tout le monde. Et après, tout le monde fait sa petite recherche et son petit kiff avec cet album.
Merci beaucoup Soprano d'avoir été avec nous sur RFI. L'album Chasseur d'étoiles est dans les bacs. Et nous, on va pas sauter partout, mais on va courir avec Forest.
Je raisonne pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur, mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance, car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant. Si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi.
Forest, extrait du nouvel album de Soprano dans VMDN sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec nous cette semaine, Marjorie Bertin et Edmond Sadaka, Alain Pilot et notre correspondante à Londres, Marie Villon. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Bonjour.
Musique et sport au programme aujourd'hui, dans la pure tradition radio des années 80. Côté musique, du jazz avec vous Edmond, et un saxophoniste français, Thomas de Pourquerie.
Il est saxophoniste, mais aussi chanteur avec son groupe Supersonic. Il vient de sortir ce vendredi un nouvel album, ça s'appelle Back to the Moon.
Musique toujours avec vous Alain, et la capitale du Portugal en guise de pseudonyme.
Oui, Benoît Jalabert se produit sous le patronyme de Lisbonne avec un seul N pour, selon lui, masculiniser le nom.
Ensuite, chacun chaussera ses sneakers pour visiter une exposition itinérante qui fait étape en ce moment à Londres, Marie.
Oui, un petit tour de l'histoire de cette chaussure qui est passée de la chaussure de sport à la chaussure de mode ultra, ultra convoitée.
Pas de sneakers pour vous, Marjorie, mais des bottes de catch.
Attrape-les comme tu peux. Ton amour t'échappe, le sens t'échappe, la fin de la blague t'échappe. Attrape-les comme tu peux.
Voilà, c'est chaud, hein, quelle ambiance, Marjorie. Alors, oui. Catch, ça veut dire attrape, hein, évidemment, en français. Vous montez donc pour nous sur le ring cette semaine. Vous êtes allé au Théâtre de la Tempête à Paris voir un match de catch.
Exactement, parce que ce sport de combat américain ultra populaire en Afrique aussi est au cœur du nouveau spectacle de Clément Poiret. Cinq auteurs, une quinzaine de catcheurs interprétés par des comédiens qui se battent aussi bien avec les mots qu'avec leur corps pendant différents combats. C'est truculent, enlevé et totalement rock.
Bon, on est dans l'ambiance et visuellement, ça donne quoi?
Alors, toute la pièce se passe sur un ring, en face duquel, sur une tribune, se tiennent deux commentateurs vêtus de rouge qui parlent très vite, comme ça, tout le temps. Ils sont là pour chauffer la salle en compagnie des deux MC, les maîtres de cérémonie de la soirée. Avec les catcheurs très maquillés, très fardés, avec leurs cris gutturaux et leurs tenues extravagantes aux couleurs vives, ils ne sont pas en reste pour haranguer la foule ou leurs adversaires. Les catcheurs sont des figures, c'est des archétypes avec des attributs très forts, très clairs, comme Casse-Noisette, l'ado féministe insupportable aux tétons lumineux qui se bat contre Priapico, le fornificateur.
Non, juste le fornicateur.
Le fornicateur.
Ça, c'est déjà pas mal. Hein.
C'est déjà pas mal. Alors, je vous laisse deviner évidemment quelle est son arme fatale qu'il brandit en permanence.
Oui, oui, non, je vois très bien. Oui.
Voilà, donc nous aussi, on voyait beaucoup. On est au catch, dans le registre de l'outrance, de la caricature. On se lâche totalement dans les gestes et dans les mots. Ça plaisait beaucoup à Clément Poiret, le metteur en scène, d'explorer ce lâcher-prise.
On peut dire des choses qu'on peut pas tout à fait dire sur un plateau, parfois très extrêmes, qui sont parfois le pire. Par exemple, entendre parler un gros porc raciste qui met au supplice un jeune homme beau et noir. Et ben, dans le catch, ce qui est beau, c'est qu'on souffre. On souffre avec ce jeune homme. Et puis, à la fin, l'ordre est renversé. Tout est performatif, tout est ample, tout est spectaculaire. Tout en gardant un rapport à la jubilation. On peut vraiment brûler tous nos pires monstres le temps d'un soir, s'en débarrasser, s'en libérer, en les mettant une bonne fois sur le ring.
Alors c'est tellement extrême que je peux vraiment pas vous faire entendre la scène dont Clément Poiret parle, mais comme il y a cinq auteurs et beaucoup de combats, ce qui est bien c'est qu'on peut sortir, prendre une bière, revenir,
avec changer... Avec modération bien sûr.
Avec modération, changer de place, se promener, le public est vraiment très très libre, les registres aussi sont très différents, comme dans cet extrait écrit par Akimba, où Misandra, héroïne de la cause féminine impitoyable, nous dit le programme, accouche. Elle se bat pour la vie pendant que son mari, Mélancolia, dont l'arme principale est...
Je sais pas, la déprime.
Bravo! Pendant que Mélancolia, donc, se bat contre son frère ennemi, le capitaliste capital.
Au moment où les deux frères vont se jeter dessus comme des bêtes sauvages, Misandra, qui a pu contenir sa douleur jusque-là, se remet à gémir dans la baignoire. Capital dit.
Accouche et tais-toi!
Misandra souffre.
Je n'y arrive pas!
Mélancolia découvre Misandra.
Qu'est-ce qu'il y a?
Mélancolia tente de se rapprocher de la baignoire. Capital s'interpose.
T'approche pas d'elle!
Mélancolia rétorque.
C'est ma femme, abruti.
Capital.
C'était ta femme.
Ajoute.
Ça a été ta femme.
Lui assénant une manchette.
Bon, c'est très expressif, très descriptif aussi.
Oui, comme un vrai match de catch en fait. Et Clément Poiré a demandé à chaque auteur d'écrire ce qu'il voulait, en s'inspirant des codes du catch évidemment. Donc Akimba m'a raconté que lui, ses codes, il les connaissait grâce à la télévision guinéenne qui diffusait des matchs américains.
Je regardais ça, j'adorais ça. Du coup, tout le quartier, on se retrouvait, on regardait les matchs du catch. On supportait aussi des catcheurs. C'est les coups portés quoi qui nous importaient surtout. Donc là, à travers ce projet, du coup, j'ai pris le temps aussi de regarder beaucoup de matchs, de voir un peu comment ça se fabrique, surtout la place du récit et toute la liberté aussi que ça peut donner au théâtre en termes d'écriture et puis en termes de récit quoi.
Alors on en parlait il y a quelques jours avec Philippe Jean dans VMDN. L'une des particularités du catch, c'est qu'on fait semblant de se faire mal, oui. Contrairement à la boxe, les coups sont faux, tout est un petit peu arrangé, c'est le cas ici ?
Oui, bien sûr, mais c'est très physique quand même, d'après Camille Bernon, qui joue Misandra dans plusieurs matchs. Dans celui dont on vient d'entendre un extrait, elle est vaincue. Mais par la douleur, elle va devenir forte, elle va réussir à se venger. Donc on va la retrouver dans un autre texte de Sylvain Lévet, cette fois, où elle va se battre physiquement, ce qui a nécessité un travail énorme. On passe de la parole au corps. Et Camille Bernon, pour ça, elle a pris des cours de catch, elle a regardé des centaines de matchs sur Internet. Et elle nous raconte justement pourquoi faire semblant, c'est si difficile.
C'est un combat qui est assez dangereux parce que ça nous demande déjà d'avoir les mêmes compétences que ce que demande une scène de théâtre, c'est-à-dire à la fois voilà, être très concentré et en même temps, ça demande une très grande énergie physique, beaucoup de respiration, du cardio et puis aussi d'avoir beaucoup de précision. Il faut qu'on rentre en contact aussi, mais il faut qu'on fasse attention à l'autre. Il y a plein de moments où on pourrait se blesser si on n'est pas bien concentré, si on commence à se laisser emporter par l'énergie. On peut blesser l'autre et du coup, ça demande un timing aussi énorme. Mais c'est très jouissif à faire, on a l'impression d'être des super-héros quand on est sur scène.
Bon, elle met ses adversaires dans les cordes et même KO, Misandra.
Mais oui, on est au catch.
Voilà, catch, mise en scène. Clément Poiré, c'est au Théâtre de la Tempête jusqu'au 17 octobre. Merci Marjorie. Allez, on change un tout petit peu d'ambiance, vous l'avez compris, avec vous et de Monsadaka, vous avez choisi de nous parler d'un jazzman français, saxophoniste et chanteur, sans doute un des musiciens les plus inventifs, les plus charismatiques aussi de ces dernières années en France. Thomas de Pourquerie et son groupe Supersonic viennent de sortir Back to the Moon, c'est leur troisième disque.
En effet, Jean-François, un disque sorti aujourd'hui, vendredi. Mais il y a quelques jours, le groupe était sur scène lors du festival parisien Jazz à la Villette, l'occasion pour les six musiciens d'interpréter la douzaine de morceaux qui composent l'album, comme le morceau qui donne son titre au disque Back to the Moon.
Alors décrivez-nous tout d'abord, Edmond, en quelques mots, ce personnage singulier, parce que ce n'est pas n'importe qui, hein, Thomas de Pourquerie, dans le monde du jazz en France.
En effet, il a été qualifié il y a quelques jours par nos confrères du magazine Télérama d'extraterrestre du jazz. Ce musicien et chanteur a 44 ans aujourd'hui, un chanteur à la longue barbe, à la carrure de sportif. Il se destinait au rugby dans sa jeunesse, mais l'amour du saxophone aura donc eu le dessus. Alors après des études au Conservatoire de Paris, il a accumulé les récompenses, notamment une victoire du meilleur album jazz en 2014. Sa singularité à ce musicien, c'est de casser les codes du jazz. Il aime aller dans toutes les directions. Par exemple, régulièrement, il est invité à chanter, jouer et enregistrer aux côtés de chanteurs célèbres comme le groupe de pop anglais Metronomy ou encore le rappeur français Oxmo Puccino.
Et son dernier disque, Back to the Moon, vient de sortir ce vendredi. Thomas de Pourquerie vous a confié tout d'abord, Edmond, les conditions dans lesquelles il a été composé il y a bientôt 2 ans. C'était dans un isolement quasi total.
Je l'ai composé l'hiver 2019. Je suis parti dans une maison en Bretagne me fabriquer un cockpit de vaisseau spatial autour d'un petit piano droit, des guirlandes lumineuses et de synthétiseurs et de mes saxophones. Et voilà, je suis resté un mois enfermé, seul, dans ce vaisseau spatial pour composer Back to the Moon.
Et lorsque Thomas de Pourquerie parle de vaisseau spatial, Edmond, j'imagine que l'image n'est pas choisie au hasard.
En effet, car l'un des titres de ce disque, Yes, 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 faisait partie de la playlist, autrement dit et en français, de la liste des morceaux qu'écoute dans l'espace l'astronaute français Thomas Pesquet, parti rejoindre, vous le savez, la Station Spatiale Internationale.
Watching the new world falling in the dark. Okay.
Ça, c'est un des plus beaux cadeaux de l'année, c'est d'avoir appris que notre chanson Yes, 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 Yes avait été dans les oreilles de Thomas Pesquet pendant qu'il est au-dessus de nos têtes dans la Station Spatiale Internationale. Ça, ça fait quand même rêver, quoi, de se dire qu'on a écrit une chanson tout seul, quelque part, planquée au loin, dans des terres lointaines, et qu'à un moment, elle se retrouve dans l'espace.
That is my only way. Won't you swim to me whole like the moonlight? It could be the dolphin and the wolfie.
Thomas de Pourquerie et son groupe ne limitent pas leur musique, on vient de l'entendre, au jazz, parce que ce disque, c'est aussi une ouverture vers la pop musique, entre autres.
C'est une de mes grandes influences aussi, la pop musique, j'en écoute beaucoup. Et encore une fois, Supersonic, c'est un terrain de jeu, c'est un groupe qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de barrières, qui ne s'interdit rien. Et c'est ce que permet également le jazz aujourd'hui. On met un petit peu tout ce qu'on ne saurait pas étiqueté, en tout cas tout ce qu'on a envie de mettre, on le met dedans et on ne s'interdit pas de jouer un morceau comme Yes 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 et ensuite un morceau comme O Estrangeiro et ensuite une balade et ensuite un morceau de free jazz et des choses voilà, qui vont goûter à plein de styles différents.
Thomas de Pourquerie qui évoquait à l'instant le titre O Estrangeiro, c'est le fruit d'une rencontre entre cet amoureux de la rumba congolaise avec des musiciens africains et en particulier donc congolais.
Il les a rencontrés en effet à Brazzaville il y a 3 ans, la chanteuse Berléa Bilem, le percussionniste Fab Bambi Borel et aussi le percussionniste guinéen Mohamed Sila qui vit dans la capitale congolaise. Thomas de Pourquerie les a invités sur cet album pour interpréter à ses côtés une chanson composée par l'un des musiciens brésiliens les plus populaires.
Cette chanson qui s'appelle O Estrangeiro, qui est une chanson de Caetano Veloso, ben je l'ai choisie tout simplement parce que la musique sud-américaine, c'est un berceau très important de la rumba congolaise, une des musiques que j'affectionne particulièrement. La musique sud-américaine, c'est aussi un des berceaux du jazz, donc c'est un lieu assez universel. Chanson qui est un hymne à l'humanité tout entière, un hymne à l'étranger, une ode à l'étranger, l'étranger qui nous nourrit, qui nous fait du bien, l'étranger sans qui nous ne sommes rien d'autre que nous-mêmes en face d'un miroir.
Vous allez voir sur scène, moi, il y a quelques jours, Thomas de Pourquerie et son groupe Supersonic.
Et pour les décrire rapidement, en première ligne, il y a bien évidemment les instruments avant, Thomas de Pourquerie et Laurent Barden qui déchaînent leur saxophone. Il y a aussi l'excellent Fabrice Martinez à la trompette, Édouard Perrault à la batterie qui passe ses nerfs sur ses fûts, Arnaud Roulin derrière ses claviers et autres synthétiseurs. 5 musiciens de très haut vol pour accompagner un saxophoniste et chanteur qui décidément a la classe.
Merci beaucoup, Edmond.
Direction chez mon fournisseur Footlocker. La Berger Max fait partie de ma vie, c'est juste un coup de cœur. Elle a cassé des deux Porsche pour du pif quand tu dors. Si un jour je passe au Max, je la referai tout en or.
On s'en souvient tous, à la sortie du confinement, on a pu voir des files d'attente de plusieurs dizaines de mètres devant les magasins de sport. Et tout ce petit monde faisait la queue pour acheter des baskets, à porter peut-être, mais surtout à revendre. Au musée du design de Londres, s'est ouvert cet été une exposition dédiée justement aux baskets, sneakers unboxed, ces chaussures de sport qui sont maintenant un objet de mode, voire même un objet d'art, et qui peut valoir des millions d'euros. Alors justement, Marie, la première pièce de l'exposition commence avec la paire de chaussures la plus chère de l'histoire, c'est en tout cas ce que dit le musée.
Oui, c'est la Jordan X Dior Retro High, mise sur le marché en 2020 pour la modique somme de 2 000 $ américains, l'équivalent de 1 600 €. Elle se revend désormais sur une des bourses au basket StockX, un partenaire de l'exposition, pour plus de 12 000 €. Parce que oui, il y a des bourses au basket, et la chaussure la plus échangée sur StockX, c'est la Adidas Yeezy Boots 320 V2. Plus de 100 000 modèles ont été échangés sur cette plateforme, et même si les stocks des magasins ont été régulièrement réalimentés avec ce modèle, le prix de revente est toujours resté 80% plus élevé que la valeur marchande initiale. Ce sont déjà des sommes astronomiques, mais l'industrie a déniché des moyens de rendre ses chaussures de plus en plus chères en multipliant les éditions collector et les techniques de vente. Par exemple, le Quick Strike. L'idée, c'est de ne distribuer une paire de chaussures qu'en édition limitée et dans certains magasins ou certaines plateformes. Parce qu'en plus des bourses au basket, il y a aussi des dictionnaires, hein, des baskets. Il y a donc un glossaire pour les néophytes au début de l'exposition.
Ah oui, c'est donc un vrai monde et une vraie économie, hein, que la basket. L'exposition explique, Marie, comment on est passé d'objet utile à objet de collection ?
Oui, c'est dans la deuxième salle de l'exposition. On entre vraiment dans les détails du phénomène culturel de la basket. Rachel Haeckel est la co-commissaire de l'exposition.
Really, that begins in the 70s in America with basketball and streetball specifically.
Tout commence dans les années 70 aux États-Unis avec le basketball, ou la version jouée dans les rues surtout, le streetball. Jusque-là, les marques ne fabriquaient des chaussures que pour les sportifs. Il y avait ces tournois de rue qui attiraient une très grande foule. Les spectateurs, voyant les baskets portées par les joueurs, ont commencé à vouloir les mêmes. Et puis les danseurs et danseuses de hip-hop à New York ont commencé à faire pareil et à s'intéresser à d'autres modèles comme les Puma Clyde en din.
Il s'agissait de jeunes qui n'avaient pas beaucoup d'argent à l'époque, hein. Alors il n'était pas rare, dit Rachel, de les voir se promener avec une brosse à dents pour nettoyer leurs chaussures ou leurs lacets. Alors si les fans de Nike et les basketteurs aiment entretenir leurs souliers de l'autre côté des États-Unis, sur la côte ouest, une autre sous-culture s'intéresse à une autre marque et en fait un tout autre usage, explique Rachel.
Skaters really favored a different brand, which was Vans.
Les skateurs préfèrent les Vans. La gomme des semelles est bien plus épaisse, donc elles sont plus adaptées aux impacts liés à ce sport. Et nous exposons un modèle de Vans très très abîmé. Ceux qui les portent veulent montrer leur assiduité à pratiquer leur sport et à porter ces chaussures.
Tout ce phénomène fait que la demande augmente, l'offre n'arrive pas à suivre, donc d'autres marques se développent. Ça y est, on entre dans le capitalisme de la chaussure, et évidemment certaines stars ont activement participé à ça, Michael Jordan en particulier. Plusieurs de ses chaussures sont exposées, la fameuse Air Jordan notamment, qui n'a été faite que dans sa pointure pour lui et pas pour le public. Il y a aussi une publicité à laquelle il a participé pour promouvoir le modèle.
Donc le phénomène est né chez les jeunes. Mais à quel moment, Marie, les marques et donc le marketing ont commencé à jouer un rôle ?
C'était dans les années 80 quand la chaussure de sport a quitté le monde du sport. C'est ce qu'explique Rachel.
Les groupes de hip-hop ont joué un grand rôle là-dedans. Ils étaient les premières stars hors sportifs à avoir un accord de sponsorisation avec ce genre de marque. C'est de là qu'est née l'Adidas Superstar. Les marques ont commencé à reconnaître l'influence que les célébrités pouvaient avoir, mais ce n'est que dans les années 2000 qu'elles essaient vraiment d'en profiter.
En fait, c'est au Japon, déjà vers la fin des années 90, que la basket a pris son envol. C'est là-bas qu'un intérêt poussé a commencé à se manifester chez les acheteurs. Les marques multiplient alors les modèles collector, c'est ce qu'explique Rachel, et il ne faut pas attendre longtemps pour que la basket bascule dans le monde du luxe. C'est là que la basket quitte le monde de la chaussure qui chausse en tout cas.
Then we've got a few...
Dans cette vitrine, on voit que la basket est devenue une occasion de faire des expérimentations pour les designers de pointe. L'une des plus connues est la Balenciaga Triple S, avec sa grosse semelle très épaisse qui est devenue une mode en soi. Mais on est très loin de la chaussure fonctionnelle, de la notion d'équipement sportif.
Il y a aussi des éditions limitées dessinées par les musiciens Rihanna ou bien Kanye West, et la basket Jésus du studio Mischief, les bulles terre inventée par Nike sont remplies d'eau du fleuve Jourdan. Il y a un crucifix sur les lacets et une citation de la Bible.
Alors, on multiplie les originalités et les occasions marketing au détriment de la fonctionnalité, on l'a compris. Le musée Maris demande aussi si c'est au détriment de l'environnement.
Oui, parce que le musée estime que 2,3 milliards de chaussures sont créées chaque année, surtout en Chine et en Asie du Sud-Est. Les Américains, les plus grands consommateurs de baskets, en achètent en moyenne 3 paires par an. Or, la création des matériaux, leur acheminement vers l'usine de production, l'assemblage, la distribution, puis la destruction une fois usés des sneakers, a un coût environnemental énorme. C'est ce qu'explique un extrait d'un petit film issu d'une conférence TED intitulée « La très compliquée anatomie de la basket ».
La fabrication de chaussures représente un cinquième des émissions produites par l'industrie de la mode. Les baskets à elles toutes seules génèrent 313 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année, l'équivalent des émissions produites par 66 millions de voitures.
Alors l'exposition se termine sur les baskets écolo, que ce soit des sneakers créés avec les bouts de vieilles paires ou bien en utilisant des matériaux et des techniques elles-mêmes plus écolo.
Marie Billon dans le Café Gourmand de VMDN, merci.
Au ciel, je tombe.
De plus que moi, Lisbonne dans le Café Gourmand de VMDN. Alors dites-nous Alain, quand a débuté donc cet artiste de son vrai nom, Benoît Jalabert ?
Benoît a commencé, Jean-François, à 12 ans. Son père jouait de la guitare. Lui s'est tout de suite mis à l'apprentissage du saxophone alto puis ténor. Il a écrit très jeune et pratique la guitare en autodidacte. Il est passé également par une école de jazz à Montpellier, a vécu en Belgique, à Bruxelles et Paris.
Et que dit-il de sa musique ?
Pour lui, il réalise des chansons d'obédience poétique, mélancolique et assez dansante. Il faut préciser qu'à la maison, ils écoutaient beaucoup de chansons françaises. Comme tout bon français qui se respecte, précise-t-il en souriant. Lisbonne a été biberonnée par Brassens surtout et des artistes comme Jonas, Souchon, Cabrel. Ça, c'était plus son père. Sa mère avait plutôt un côté années 70. Elle écoutait John Baez, Leonard Cohen, Pink Floyd.
Pas mal non plus.
Oui, elle apportait un petit côté outre-Atlantique. Son père était guitariste, pas de profession, mais il en jouait tous les jours. Il y a toujours une guitare qui traînait dans le salon. Benoît en a d'ailleurs profité à cette époque pour la lui emprunter et faire ses premières armes. Aujourd'hui, il nous présente son premier mini-album City qui s'ouvre sur la chanson « Un loup pour l'homme » qui lui aurait été inspiré en se baladant dans les rues de la ville où il vit, Montpellier.
C'est tout à fait ça, c'est en me promenant effectivement dans les rues de Montpellier que j'ai entendu au loin ce slogan scandé par un sans-abri que j'ai découvert en me dirigeant vers cette source-là vocale. À ce moment-là, j'étais en pleine recherche d'inspiration et de thème pour une nouvelle chanson. Ce sans-abri m'a, sans le vouloir forcément, m'a servi le thème sur un plateau, donc je suis rentré chez moi et puis j'ai commencé à tisser un peu la toile du morceau, voilà, pour parler de ça, de la précarité sociale, entre autres.
À l'orée de toi, à l'orée de toi, mon garçon, je pleure. Je pleure ma vie, la maison perdue. Madame est partie et le chien n'est plus. Sans doute le coup du destin, mon cul. L'homme est un loup pour l'homme.
Lisbonne, un loup pour l'homme. Alors avant Lisbonne, il y a eu d'autres choses pour lui.
Oui, il a monté un premier projet de chanson, Brazou, que Benoît a tourné avec ce projet dans la région de Montpellier pendant quelques années. Puis, il a eu l'impression d'avoir fait un peu le tour de sa région. Sa copine de l'époque s'étant expatriée à Bruxelles, il l'a suivi. Ça a été l'occasion pour lui de changer d'air et de se confronter à une autre culture. Francophone certes, mais avec un état d'esprit assez différent de la France. Il pensait y rester un ou deux mois. Finalement, il y est resté presque cinq ans. Il avoue être tombé dans les mailles du filet belge. Avec joie, Lisbonne a donc tourné pas mal en Belgique, il a fait quelques petits concours. Il était vraiment dans le réseau chanson bruxellois. Il a tourné à cette époque un peu en Suisse aussi, et finalement beaucoup plus en France que quand il y habitait. Après ça, en 2012, il est passé par Paris, il a fait quelques concerts, mais la vie il était un peu plus compliquée pour lui. Arrivant de Belgique, ça a été un peu fatal. Il a tenu un an et demi avant de revenir dans le sud. Benoît avait soif de retrouver sa famille, ses amis proches et le soleil. Il est donc revenu vivre à Montpellier. Retour à son travail actuel, si un loup pour l'homme lui a été quelque peu soufflé par un SDF, c'est un proche qui a été le déclencheur de Le Vietnam sous la neige.
Oui, là c'est un peu différent effectivement. Le Vietnam sous la neige donc traite en toile de fond du syndrome de mythomanie. Un ami qui avait tendance à l'époque à dire, entre autres choses, qu'il avait fait Le Vietnam sous la neige. Donc c'est devenu pour nous, dans notre cercle d'amis, une sorte de syndrome de la mythomanie. On appelait ça la maladie du Vietnam sous la neige.
Le Kidam s'imagine encore dans les rues de Saigon, où les larmes tombaient nettes des avions. Des rizières le long des corps attisaient les flammes, chevauchaient le dragon, égrenaient les arpèges du Vietnam sous la neige. Attisaient les flammes, chevauchaient le dragon, sublimaient le cortège du Vietnam sous la neige.
Le Vietnam sous la neige, c'est Lisbonne qui reprend aussi le tube de Desireless, Voyage, Voyage.
Alors pourquoi avoir voulu s'approprier cette grande sœur, comme il l'appelle, et pour quelle raison trouve-t-il plus intéressant qu'un homme reprenne une chanson de femme? Et enfin, qu'est-ce qu'une Discolite version?
Parce que c'est avant tout affectif, je dirais, parce que c'est une chanson qui est née comme moi au milieu des années 80. C'est une chanson avec laquelle j'ai quelque part un peu grandi, donc c'est toujours agréable de retrouver comme ça des partenaires d'enfance et de jouer avec. Je trouve que c'est aussi une grande chanson, c'est-à-dire que encore une fois, un texte précis, ciselé, avec un vrai message, de jolis mots, et puis une mélodie et des harmonies sublimes. Donc, je trouvais intéressant de dépouiller cette chanson, de lui enlever un peu son costume de l'époque, qui était un peu désuet, quoique ça revient un peu à la mode des années 80, voire beaucoup. Ça m'intéressait de lui ôter un peu ses habits et de lui en mettre d'autres. Je trouvais que c'était plus intéressant pour moi, parce que vocalement, je souffrais moins de la comparaison. Et puis la Discolite version, c'était tout simplement une version dure, destinée plutôt aux discothèques. C'était au moment du premier confinement que j'avais eu cette idée-là. Tout simplement parce qu'on était tous en manque de fête, en manque de danse. Une version plus disco, plus dansante, tout simplement. Plus festive, je dirais.
Merci infiniment, Benoît, alias Lisbonne.
Merci à vous, Alain. Merci beaucoup.
Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, du vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage.
Voyage, voyage par Lisbonne. Son disque est donc sorti sous le label Hélice Distribution Alterca. Lisbonne en concert le 23 octobre à la Cigalière de Sérignan, en première partie de Gaël Faye. Et cet automne est surtout consacré, me disiez-vous, Alain, à des résidences pour préparer 2022 et l'enregistrement de l'album. Merci Alain, merci également à Edmond, Marie et Marjorie. Dans un instant, le journal, bien sûr, sur RFI. On se retrouve lundi avec du théâtre, Les Illusions perdues de Balzac, avec la metteuse en scène Pauline Bayle et la comédienne Jenna Thiam. Et vous m'en direz des nouvelles.
Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour.
RFI.